Les journaux, Jacques-Yves Molima.
Mesdames et messieurs, bonsoir. 3 morts et une trentaine de blessés dans les rangs de FRDC. C'est le bilan provisoire des combats qui ont eu lieu ce samedi à Saké, non loin de la ville de Goma, dans le nord Kivu, entre les FRDC et les troupes du général déchu Laurent Koundé-Batoré. Pendant ce temps, à Kinshasa, au procès en contestation des résultats du second tour de l'élection présidentielle, le collectif des avocats de l'Union pour la Nation a de nouveau quitté la salle pour cause de rejet par la cour de leur requête de suspendre l'audience. Les détails dans cette édition. Et puis en Mbujimayi, une somme de 2 300 $ américains et 100 000 francs congolais ont été collectés ce samedi à l'issue d'une journée de circonscription organisée par le PNMLS, et cela en prévision de la journée de la lutte contre le VIH-SIDA prévue pour le 1er décembre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au moins 3 morts dans le camp des militaires brassés de la 11e brigade intégrée et plus de 40 blessés, dont 10 civils. Tel est le bilan provisoire des affrontements de ce matin opposant les éléments non brassés de 81e et 83e brigade, fidèles au général déchu Laurent Koundé-Batoré, à ceux brassés de la 11e brigade autour de la cité de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma. Selon Delphin Kayimbi, commandant adjoint chargé des opérations au sein de la 8e région militaire, l'heure est actuellement au nettoyage du terrain, toujours sous contrôle de FRDC. De son côté, l'autorité provinciale appelle la population à ne pas céder à la panique en rassurant que les FRDC, avec le concours de la MONUC, contrôlent la situation. Le point avec Bernardin Nyangui.
Les corps de 3 militaires de la 11e brigade succombés dans ces affrontements sont à Goma depuis le début de l'après-midi. Selon les sources concordantes, il y a déjà 41 blessés enregistrés, parmi lesquels 31 militaires de la 11e brigade et 10 civils. Ces affrontements à l'arme lourde qui ont opposé depuis 4 heures du matin ce samedi les troupes brassées de la 11e brigade à ce nom brassé de la 81e et 83e brigade fidèles au général déchu Laurent Koundé ont causé un afflux massif de déplacés venus de Saké depuis le matin de ce samedi. Les uns venant à Goma quand les autres ont pris la route vers Minova dans le sud Kivu. Les tirs ont cessé en début de l'après-midi dans la zone des affrontements, Saké restant toujours entre les mains des éléments loyalistes, disent certains témoins. Moins sur place à Saké. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Eugène Serufuli, lui, rassure toute la population qu'il appelle à ne pas paniquer que la FRDC, avec le concours de la MONUC, sont à pied d'œuvre pour faire revenir le calme à Saké. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa. Poursuite de l'audience à la Cour suprême de justice, le collectif des avocats de l'Union pour la Nation a de nouveau quitté la salle. Et pour cause, la Cour n'a pas répondu favorablement à leur demande de suspendre l'audience. Rejoignons notre confrère Guy Maté sur place. Il s'entretient avec Emmanuel Imbanda.
Quelle est la situation actuellement sur l'audience de la Cour suprême de justice?
Oui, le collectif des avocats du MSC viennent de quitter une fois de plus la salle des audiences. C'est ça les faits actuellement.
Pourquoi?
C'est après que la Cour ait refusé de répondre favorablement à la demande des avocats du MSC, demande selon laquelle la Cour devait suspendre les travaux et les reporter pour lundi prochain. Et ce collectif a évoqué des questions ayant trait à l'insécurité ainsi qu'à la fatigue.
On a cru entendre parler d'un autre paramètre là, relatif au fait qu'il fallait qu'il dépose des pièces à la cour et qu'il n'avait pas sur place, il fallait qu'il dépose ça le lundi, vous confirmez?
Oui, effectivement, la cour a demandé au collectif des avocats de déposer la liste des témoins qui ont été envoyés par le MSC dans les différents bureaux de vote. Et le collectif des avocats a estimé qu'il fallait leur donner le temps de préparer cette liste pour l'amener lundi.
En dehors de ce nouvel incident à l'audience, qu'est-ce que la Cour a débattu aujourd'hui?
Oui, la Cour a demandé au collectif des avocats du MSC de présenter les 8 plaintes qui sont contenus dans leur dossier, les dossiers qu'ils avaient déposés ici à la Cour suprême de justice. Sur les 8 plaintes, 5 plaintes ont déjà été présentées.
Lesquelles?
Et notamment, la question est entrée au gonflement des chiffres à l'est du pays par la CI. La deuxième plainte, c'est la question est entrée aux listes spéciales, aux omis et aux votants par dérogation. Une autre plainte, c'est celle ayant fait à l'empêchement intentionnel par la CI des témoins du MSC de signer le PV des résultats. Un autre, c'est celui ayant fait aussi à l'empêchement des témoins du MSC toujours d'assister au déroulement des votes dans les différents bureaux de vote.
C'était notre confrère Guy Maté qui s'entretenait avec Emmanuel Imbanda. Et puis, sachez que depuis hier vendredi, et sur toute l'étendue du territoire national de l'enregistrement des candidats gouverneurs, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole du président de la commission électorale indépendante ce samedi à Radio Capi. Selon Délion Kimbolompo, cette élection de gouverneur ne concerne que 11 provinces reconnues actuellement en République démocratique du Congo. Il y en aura une autre élection pour le 15 autres provinces prévues par la Constitution. Quelles sont alors les conditions requises pour postuler au poste de gouverneur de la province? Écoutons les explications de Délon Kimbolompo au micro de Stéphane Moukendintita.
Il faut être de nationalité congolaise, bien entendu être âgé de 18 ans révolus, à la date, bien sûr, des clôtures du dépôt des candidatures, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier ou enrôler lors du dépôt de sa candidature. Et il existe une caution de 660 000 francs congolais que le candidat doit devoir verser au trésor public par le biais de la Direction générale de recettes administratives domaniales des participations des GERAD. Et voilà à peu près les quelques conditions qui sont exigées pour les candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs.
Et cette période se limite quand?
L'enregistrement des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs a démarré le 24 et ira jusqu'au 8 décembre 2006.
Le porte-parole du président de la Commission électorale indépendante a aussi fait le bilan des travaux de compilation des résultats des élections législatives provinciales. À ce jour, environ 93% des résultats sont déjà publiés. Quant à l'enregistrement des candidats sénateurs, Délion Kimbolompo confirme que la CI a déjà réceptionné à ce jour 399 candidatures. Retenons que la fin des dépôts de candidatures est prévue pour le 30 novembre 2006. Un peu plus au sud, dans le Bas-Congo, à Matadi, plus précisément, plus d'une cinquantaine de démobilisés enfin sit-in hier vendredi devant les locaux du gouvernorat du Bas-Congo. Ces derniers réclament leur kit de réinsertion. Les détails avec Dani Kintanzita.
On est fatigué d'attendre car la CONADER n'a pas respecté ses engagements. C'est en ces termes que s'est exprimé le porte-parole de ces démobilisés devant les locaux du gouvernorat du Bas-Congo. On l'écoute.
Nous sommes venus ici au gouvernorat pour le contrat qui nous lie avec la CONADER. Nous sommes des démobilisés. Il faudrait que la CONADER respecte les engagements convenus. Jusqu'à ce jour, elle ne veut pas nous donner les kits de réinsertion. Avant de nous livrer à des désordres, qu'elle puisse nous les donner. Et chacun pourra prendre sa direction et se débrouiller.
Pour Grégoire Ntoutani, directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, structure ayant procédé à la formation de ces ex-combattants, ils doivent attendre car ce n'est ni la CONADER ni l'INPP qui financent l'acquisition des kits de réinsertion. Grégoire Ntoutani.
Il est prévu dans la convention qu'après la formation des démobilisés, l'INPP remette les kits de réinsertion aux démobilisés. Et le financement s'est fait non pas par la CONADER, encore moins par l'INPP, le financement s'est fait par la Banque mondiale.
De son côté, Jacques Mbadoussitou, gouverneur du Bas-Congo, invite les responsables de la CONADER à contacter leur hiérarchie sur cette question. Il a promis d'aborder ces problèmes avec le ministre de l'Intérieur pour qu'un compromis soit trouvé afin de maintenir la paix sociale. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Rendons-nous dans les Kasaï-Orientales pour parler VIH-SIDA. En effet, une somme d'environ 2300 dollars et plus de 100 000 francs congolais ont été collectés ce samedi à l'issue d'une journée de circonscription organisée par le PNMLS, le Programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA. Ceci en prévision de la campagne de lutte contre le VIH-SIDA qui débute le 1er décembre prochain. Les autorités politico-administratives, des personnalités politiques et les opérateurs économiques ont répondu nombreux à cet appel, comme nous l'explique Billy Yvan Lutumba.
Outre cette somme, le PNMLS a obtenu également des engagements d'un montant de près de 4 500 $ américains de la part des diverses personnalités de la ville. Le PNMLS compte aussi sur l'appui financier de ses partenaires habituels tels que la coopération technique allemande, les fonds des Nations Unies pour la population et le cœur d'aide. D'après Dr Godefroy Tshiswaka, coordonnateur du PNMLS Kassai Oriental, le comité organisateur a élaboré un budget de l'ordre de 12 000 $ pour la réussite de cette campagne qui sera lancée le 1er décembre prochain. Cette activité se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2006. Pour cette année, les coordonnateurs du PNMLS estiment que le taux de prévalence du VIH-SIDA pour la ville de Mbujimayi a augmenté de 1%. Il est passé de 4,9% en 2005 à 5,9% en 2006. Selon lui, cette augmentation est attribuée à l'insuffisance d'informations et au retard enregistré dans la mise sur pied des activités de lutte des grandes envergures. Au regard de cette augmentation, le PNMLS souhaite voir l'implication de toutes les couches sociales de la province en vue de réduire l'impact du VIH-SIDA dans la province. Billy Van Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Ituri, à Bunia, on crie non aux violences faites aux femmes. Eh bien, c'est aussi le thème sous lequel est placée la journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une conférence débat à l'intention des femmes a été organisée à l'occasion par COPI, une ONG italienne, et le Centre d'intervention psychosociale de Bunia. Objectif, sensibiliser davantage les femmes sur les différentes formes de violences dont elles peuvent être l'objet. Madame Chantal Inena, psychologue et membre de CIP, explique comment leur ONG arrive à prendre en charge ces femmes violentées dans leur milieu social au micro de MSA.
On a parlé d'abord des violences que les femmes subissent à la maison parce que seulement elles sont femmes. Il y a d'autres formes aussi des violences sexuelles. Comment est-ce que nous les prenons en charge, comment elles viennent à nous? Il y a certaines sensibilisations que nous faisons au niveau de la communauté. Il y a des formations que nous faisons au niveau des leaders communautaires, des chefs de quartier, des chefs d'avenue. Les femmes qui se trouvent dans ce genre de conditions viennent chez nous pour dire qu'elles sont victimes de telle ou telle autre violence. Et comme souvent, elles présentent certains problèmes psychologiques, par exemple, sur le plan physique, on peut voir qu'il y a l'amaigrissement, il y a certains même problèmes psychosomatiques, il y a par exemple les maux d'estomac, on les aide avec des soutiens psychologiques. S'il y a des problèmes au niveau de la famille, on fait des médiations au niveau familial. S'il y a des problèmes au niveau de la communauté, on fait des médiations aussi au niveau de la communauté. C'est-à-dire quand nous parlons avec des victimes, ensemble nous cherchons comment est-ce qu'on peut trouver le mieux-être.
Retour à Kinshasa, 3 morts, toutes des femmes, dont une enceinte et plusieurs blessés graves, un véhicule endommagé en plus. Tel est le bilan d'un accident de circulation entre un train marchandise de l'Onatra et un camion de marque Toyota à Kinshasa. L'accident a eu lieu ce samedi 25 novembre à l'entrée du port Baramoto, croisement la voie ferrée et l'avenue de poids lourd Andolo. Le train provenait de la gare centrale à destination de Matadi avec des passagers à bord. Il a percuté les camions qui transportaient des sacs de maïs et de manioc. Selon les témoins sur place, le chauffeur du camion a refusé d'obtempérer à la réglementation routière assurée par les gardes de barrière Onatra. Les victimes de l'accident ont été acheminées à l'hôpital général de Kinshasa. Entre-temps, à Kisangani, les activistes des droits de l'homme accusent les autorités locales de ne pas se soucier de la sécurité des personnes et de leurs biens entre les dérives du fleuve au chef-lieu de la province orientale. Le groupe Justice et Libération ainsi que les amis de Martin Luther King, deux ONG basées à Kisangani, ont exprimé leur position dans un communiqué de presse conjoint rendu public à la suite du naufrage survenu jeudi dernier sur le fleuve à Kisangani. Pierre Kibaka Falanga, président du groupe Justice et Libération et porte-parole de ces deux organisations.
Le constat est malheureux, c'est que nous nous sommes rendus compte que depuis un certain moment, nous avons l'impression que les autorités de la place ne s'occupent pas de la sécurité des personnes et de leurs biens. En fait, nous avions déjà lancé beaucoup de cris d'alarme par rapport aux pirogues qui traversent de la rive gauche à la rive droite. Et malheureusement, une fois de plus, nous venons de déplorer la mort de nos compatriotes. Et nous nous rendons compte que ni la police fluviale, moins encore la mairie et même le gouvernorat de province, malgré tous les communiqués qu'ils passent, il n'y a personne qui prend des mesures de sécurité pour assurer la vie à nos compatriotes.
De son côté, l'hôtel de ville de Kisangani rassure que des dispositions pour réglementer et sécuriser la traversée entre les dérives sont en place depuis l'année dernière. Mais toutefois, le maire intérimaire reconnaît que ces mesures souffrent des failles dans leur application. Gaspard Bossingé Akoko.
Voudrions vous rassurer que la mairie de la ville de Kisangani avait déjà pris des dispositions pour sécuriser, si vous voulez, réglementer les traversées dans la rivière Tchopo et dans le fleuve Congo. Et dans ces arrêtés, nous les avons mis en application depuis le 18 mai de l'année dernière, lorsqu'il y a eu des cas d'incidents et de naufrages. Mais le problème que nous avons sur le terrain, c'est celui du comportement des exploitants des différents beaches. Certaines dispositions sont foulées à pied et lorsque nous appliquons rigoureusement la votre population plaire, c'est ça l'embarras dans lequel nous nous trouvons. Mais de toutes les façons, les minimums de sécurité sont assurés.
Dossier réalisé par Josie Deschartes-Menga. Rappelons que le naufrage de jeudi dernier a occasionné la disparition de 6 personnes, selon la police fluviale, lacustre et maritime. Le commissaire fluvial de Kisangani a déclaré à Radio Okapi que la recherche des corps ne peut commencer que ce samedi. À l'extérieur de nos frontières, des rebelles tchadiens ont pris cet après-midi le contrôle de la ville de Biltine. C'est à une soixantaine de kilomètres au nord-est d'Abéché. Selon l'agence France-Presse, la chute de cette ville est intervenue à après de brefs affrontements avec l'armée gouvernementale, a-t-on appris des sources concordantes. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal Parler. Merci de nous avoir suivis.